pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
Êtes-vous heureux? Y croyez-vous au bonheur? Eh bien, Mélodie Lorquet nous en parle dans quelques instants. C'est l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. Bienvenue à l'Utopie d'Amélie. On parle du bonheur aujourd'hui. Le bonheur, c'est un gros mot, hein? C'est un gros mot, puis des fois, on sait pas c'est quoi le bonheur, hein? On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que nous, on vit ça, le bonheur? Eh bien, Mélodie, tu vas nous en parler un petit peu de cette bébête-là, le bonheur.
Oui, bien, j'aimerais ça vous demander en premier, est-ce que vous vous considérez comme étant heureux?
Moi, je dirais que oui.
Oui?
Oui.
Oui.
Moi, je pense que c'est un choix. Je pense qu'on choisit le matin d'être heureux.
Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je me considère heureuse. C'est une belle journée aujourd'hui. Je suis avec vous, fait que je suis de bonne humeur.
Veux-tu savoir quand je suis le plus heureux?
Oui.
Quand j'ai de la nourriture.
Ah oui.
C'est difficile. Nous, l'heure du midi, on mange pas. On parle à la radio. Peut-être que pour les prochaines émissions, Philippe, pour qu'on s'assure que tu sois bien heureux pendant l'émission, on va te donner un plateau de bouffe pendant l'émission. Tu vas pouvoir grignoter.
C'est une très belle idée, ça.
Et on le prend note.
On pense à toi, là. C'est important.
Je vous apprécie.
Bien.
Ah.
Ouais. Ouais.
Fait que, dans le fond, il y a des façons de mesurer le taux de bonheur dans des pays. Il y a différentes stratégies, puis l'ONU a 6 critères essentiels pour qu'un pays soit considéré comme étant heureux. Donc, le premier critère, c'est le produit intérieur brut par habitant. Fait que si on a de l'argent, si on est pauvre, riche...
Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le PIB, là.
Oui, c'est ça.
Plus puis, communément, tout le monde tu plug ça, drop PIB.
PIB.
C'est le produit intérieur brut.
Oui. Mais parlant de PIB, il y a aussi le BNP.
Oh, puis ça, je connais pas.
Ben, c'est quand même assez spécial. C'est le bonheur national brut.
Oh, wow!
Ouais!
Fait que je connaissais pas ça!
Ça a été inventé en 1972 par le roi du Bhoutan, qui est un pays en Asie du Sud. Puis ça, c'était pour mesurer le bonheur dans les pays. Fait que c'est ça qui était utilisé avant, mais là, c'est vraiment plus avec les critères de l'ONU. Fait que c'est ça, il mesurait le développement économique, le développement durable, s'il y avait un bon gouvernement. Puis là, ils calculaient ça, puis ils sortaient en BNB.
J'aime ça.
BNB.
BNB.
C'est pas un Airbnb, non. C'est pas non plus un bed and breakfast.
Ah.
Malgré que ça aussi, ça me rend heureux.
Ouais, moi aussi.
Ah, oui.
Le BNB.
Ouais. Déjeuner, j'aime ça.
C'est donc intéressant, le BNB. Ouais. Est-ce que vous, votre BNB, il est élevé, vous croyez?
Moi, je pense que oui.
Est-ce que vous croyez que notre pays a un BNB élevé? Ben, dans le fond, est-ce qu'on peut le savoir,
ben
ça?
Oui.
On a les différents.
Ben oui. OK, vous pensez... Dans le fond, c'est noté sur 10.
OK.
Donc, vous pensez sur 10, le Canada, c'est quoi son pointage?
J'ai l'impression que ça devait être comme un 7.
Un 7?
Elle a volé ma réponse.
Mais c'est vraiment précis, là. Ça peut être comme 7.1.
Moi, j'ai une réponse pour toi.
Oui, vas-y.
6.5.
Oh,
ah, non, 6.4.
6.4, okay. C'est quand même pas élevé. Okay.
Puis vous pensez que c'est quel le pays qui est le plus haut?
Probablement un pays nordique, là.
OK, j'aime ça.
On dirait que
la Suède, ouais, la Suède.
La Suède, la Norvège,
Finlande.
La Finlande. Okay. Oh, la Finlande.
OK, ouais. Vous êtes bon parce que ça fait 4 années de suite que c'est la Finlande.
Oh.
En numéro 1, avec un pointage de 7.84.
Ça, c'est le plus élevé?
7.84, c'est le plus élevé.
Ouais.
Puis le Canada?
Le Canada, c'est le 14e dans la liste, qui est okay. Pas spé.
Est-ce qu'il touche au 5, bien. Au moins?
Une note de 7.24.
Ah, okay.
OK, c'est quand même bien.
Fait qu'ils ouais. Pas spé.
Ils sont quand même proches, mais 7.84, c'est le plus élevé.
Ouais, puis...
Je pense qu'il faut se poser des questions.
Ouais,
si la Finlande, qui travaille tellement fort à ça, seulement à 7.84...
Mm-hmm. Non,
on a du chemin à faire.
C'est pas haut, là, sur 10.
Mm-hmm.
Puis dans le fond, ils calculent aussi l'espérance de vie, la générosité, si on a des bons pères, les gens avec qui on travaille, puis aussi avec la liberté de faire ses propres choix. Mm. Fait que c'est quand même intéressant. Là, moi, je pensais peut-être qu'on allait être un peu plus haut, mais c'est mieux que, on va dire, la Chine, qu'eux sont en 84e position.
Ouch.
Avec, ouais. Avec quel taux?
Oh, je ne l'ai même pas. Mais par exemple, j'ai. Vous pensez que c'est quel en dernière place?
Oh, c'est qui en dernière place?
Moi, je pense. Ça pourrait être prévisible un peu.
Un pays en guerre, probablement.
Oui, oui.
Les États-Unis?
Les États-Unis, non, les États-Unis, eux, sont en 19e position. Fait que c'est pas trop loin. Mais c'est l'Afghanistan.
Ah, OK, ouais.
Ouais.
Puis okay. Le pointage, c'est juste de 2,57.
Non, ça, c'est. Ah! Ah, là là.
C'est triste.
Mais je pense que le bonheur d'un pays affecte le bonheur d'un autre. Hein.
Ah oui.
Ça aussi. C'est comme des gens. Hein. Nous, s'il y a quelqu'un qui est malheureux à côté de nous, ben, c'est certain que ça l'affecte notre niveau de bonheur.
Ouais.
C'est intéressant tout ça d'entendre que la Finlande, c'est le pays le plus heureux parce que on va parler avec Marie-Pierre Bourdon de l'approche finlandaise, elle qui est la directrice de l'école au cœur d'Ottawa.
Ben oui.
Ça va être vraiment intéressant. On va aussi parler avec Yannick Marcil. Est-ce que l'argent fait le bonheur?
Ooh.
On va se poser cette grande question-là. Et tout de suite après la pause, on parle avec notre chère Mitya Ryubon de philosophie. On parle de bonheur et de stabilité. Est-ce que c'est possible d'être heureux dans un pays, que le pays soit quand même stable? On parle de ce dilemme-là, un faux dilemme apparemment. Et tout de suite, eh bien, avant la pause, j'avais goût d'entendre une petite toune. On vous a demandé sur nos réseaux sociaux tout de suite avant l'émission, quelle chanson sur le bonheur est-ce que vous préfériez à thématique du bonheur? Eh bien, c'est la chanson...
Il est où le bonheur? Il est où?
De Christophe Maé qui a gagné. Je voulais juste entendre Phil chanter. Et on se laisse sur ça. Puis tout de suite après la pause, on vous revient avec Mitya Ryubon.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour. J'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur, il est là, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais... Y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre, mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. là, il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
C'est l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM et on parle du bonheur aujourd'hui. On a plusieurs thématiques, mais en commençant, on rencontre le professeur du département de philosophie de l'Université d'Ottawa, Mitya Rioubonne. Bonjour Mitya.
Bonjour Amélie.
Alors, tu m'as proposé de parler du faux dilemme entre bonheur et stabilité, un faux dilemme qui existerait apparemment à cause de la dystopie ou bien la contre-utopie. Pour commencer, en bref, pourquoi ces dystopies-là sont venues créer ce faux dilemme?
Ben, au fond, je voulais parler, on a parlé un petit peu de ça, puis je voulais revenir un peu sur ce qu'on avait discuté, le fait que en ce moment, il y a comme une grande vogue pour ce qu'on appelle les dystopies, donc les 1984, le meilleur des mondes, mais il y a des nouvelles approches, divergences, Hunger Games, des livres. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces séries-là, ou ces approches-là de la dystopie, donc, ou l'idée que le monde à venir est un monde pire que celui dans lequel on vit, c'est qu'au fond, elles sont fondées justement sur ce que j'appelle un faux dilemme, qui en philosophie, on appelle ça un sophisme ou un raisonnement fallacieux ou un mauvais raisonnement. C'est-à-dire, au fond, c'est un faux dilemme parce que, au fond, qu'est-ce qui anime toutes ces fictions-là? C'est que, finalement, elles nous présentent un avenir qui est fondé sur l'idée que, finalement, la recherche de bonheur individuel tel que on l'a mise en place, disons, dans les sociétés occidentales modernes, au fond, est conduite à une sorte d'échec. Parce que, soit qu'avec notre furie de vouloir, par exemple, un bonheur matériel de plus en plus grand, on a créé une catastrophe écologique, soit parce que nos conceptions différentes du bonheur ou de la vie bonne ont mené à des conflits, par exemple des guerres en différents pays. Et dans tous les cas, on nous dit, bon, ben au fond, la société s'est rendue compte qu'on était obligé d'admettre que la recherche individuelle de bonheur conduit à une situation d'instabilité politique. Et là, ce qu'on nous dit, c'est ben donc c'est ce qui a été choisi, c'est d'assurer la stabilité politique par un système extrêmement répressif. Donc là, on présente dans Divergence ou dans Hunger Games toujours cette idée que il y a eu une famine, il y a eu une maladie, il y a eu une catastrophe écologique, il y a eu une guerre, et là, on a choisi de tout arrêter et on a choisi la stabilité politique. Et au fond, on nous dit, vous voyez, quand on essaie d'assurer les conditions du bonheur individuel, on risque toujours d'être conduit à l'instabilité. Et donc, on a choisi la stabilité, mais évidemment, c'est une stabilité qui nous apparaît absolument horrible. Mm-hmm. Donc, au fond, c'est comme si on disait, vous avez le choix. Ou bien vous allez vivre dans des sociétés qui sont stables, mais extrêmement répressives, ou bien vous allez vivre dans des sociétés où le bonheur peut être atteint, mais ça risque de conduire à des catastrophes, à des conflits. Donc, ça ne sera jamais une société idéale. Donc, ou bien vous avez une société non idéale avec peut-être un accès au bonheur, ou bien vous acceptez qu'il n'y aura pas d'accès au bonheur, mais au moins vous allez avoir la stabilité. Donc, c'est ça, au fond, le faux dilemme. C'est qu'on vous dit, c'est un ou l'autre. C'est le bonheur, peut-être, ou la stabilité.
Alors, c'est ça que les dystopies nous racontent depuis leur avènement là, dans le milieu artistique puis dans notre littérature. Mais au fond, les utopistes, eux, au contraire, disent que c'est pas un dilemme à avoir.
Exactement. Au fond, c'est comme si les utopistes, c'est pour ça que l'utopie est intéressante, à mon sens, c'est que les utopistes, depuis toujours, ont sorti sur l'idée qu'on n'est pas obligé de choisir entre la stabilité et la recherche individuelle. C'est-à-dire qu'on peut envisager que c'est un faux dilemme. Puisque c'est une sorte de raisonnement fatalique qui essaie de nous forcer de croire qu'on ne peut pas avoir mieux que notre situation actuelle. Que, ben, écoute, au fond, c'est une façon de dire, ben, il faut être réaliste. La seule société, c'est une société où il va y avoir un peu de malheur, où il va y avoir du conflit, et c'est inévitable comme ça se passe. Et on peut juste essayer de minimiser, disons, les intérêts négatifs. Et au fond, ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est comme de dire, ben, l'avenir est bouché. On peut juste essayer, disons, à l'intérieur du cadre actuel, de procéder à ce que, non, le fond, du fine-tuning, c'est-à-dire des petits correctifs mais qu'il n'y a pas d'amélioration ou de grande amélioration. Au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce que l'utopie dit, c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça, parce que, au fond, l'utopie ouvre l'idée qu'on n'a pas fini d'explorer les possibilités. Au fond, son raisonnement, il va de la façon suivante. C'est-à-dire, si le premier bipède, donc le premier être sur deux jambes de notre espèce, il y a 2,5 millions d'années, était arrivé et avait regardé le ciel et il avait dit « J'aimerais ça aller sur la Lune, mais je ne pourrais jamais y aller. » Et si donc il m'a dit ben, « Je ne pourrais jamais y aller, donc je démissionne », on sait aujourd'hui qu'il s'est trompé parce qu'on s'est rendu sur la Lune. Mm-hmm. Mais même il y a 100 ans, on imaginait qu'on irait, au fond, les gens disaient « C'est une utopie ». Alors, par exemple, au 17e siècle, un écrivain comme Cyrano de Bergerac écrit un voyage sur la Lune, ben, on dit de ça, c'est une utopie parce que c'est impossible d'envisager voyager sur la Lune. Mais encore là, quand on a dit à que c'est un rêve impossible ou une utopie, on s'est trompé. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'utopie lui dit, au fond, on ne peut pas démontrer que parce qu'on n'a pas compris comment atteindre quelque chose, cette chose-là est impossible à produire. Et donc, d'une certaine façon, sa manière de voir les choses, c'est de dire rien n'est impossible tant qu'on n'a pas prouvé qu'une chose est impossible. Et la seule façon de prouver qu'une chose est impossible, c'est de montrer qu'il y a une contradiction logique. Par exemple, je ne peux pas vous démontrer qu'il existe des carrés à 5 côtés, puisqu'un carré, par définition, c'est quelque chose qui a 4 côtés. Donc, ça, c'est une impossibilité. Mais une société où les gens peuvent être heureux et en même temps assurer une stabilité politique, il n'y a pas d'incompatibilité logique entre les deux. Donc, il n'y a rien qui nous dit que cette chose-là ne peut pas être envisagée. Le fait que ça fasse 2,5 millions d'années qu'on cherche à le réussir et qu'on n'ait pas encore atteint cet objectif-là n'est pas une preuve suffisante pour montrer que c'est impossible.
Moi, ce que j'aime beaucoup avec les utopistes, c'est qu'ils ont le tour pour nous prouver que notre imagination n'a pas de limite et que tant qu'on ne peut pas prouver que quelque chose est impossible, eh bien, cette chose-là ne l'est pas et reste possible. Donc, c'est très encourageant comme conversation.
Ben, en fait, c'est un peu l'idée. C'est de dire, au fond, comme ce n'est pas impossible, c'est tout à fait légitime de continuer à rêver, de continuer à penser et de continuer surtout à chercher des voies pour le... Et autant dit, il faut laisser justement la place à l'imagination pour essayer de produire des images, essayer de produire des tentatives et essayer de voir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous déplaît, donc de continuer la conversation, tout le monde ensemble. Au fond, c'est ça qui est le plus intéressant derrière ça, c'est de dire ce que l'utopiste veut faire, c'est simplement nous dire il n'y a pas de raison de se décourager, même si l'histoire humaine nous apparaît longue et qu'on dit que on a l'impression que près justement 2,5 millions d'années, tout ce qu'on a essayé n'a pas marché, donc on devrait s'arrêter. Ben, au fond, c'est pas vrai parce que 2,5 millions d'années d'histoire humaine, ben, à l'échelle de l'histoire de l'univers, c'est presque rien parce que l'univers il a 14 milliards d'années. Donc, 2,5 millions d'années est tout petit par rapport à cette échelle-là. Alors, il faut changer l'échelle du raisonnement et se dire, on n'a pas une connaissance complète de la nature humaine, on n'a pas une connaissance complète de l'organisation des choses et donc, on a le droit de penser qu'un jour, des organisations différentes de celles qu'on a trouvées vont être possibles et vont rendre possible, justement, de mettre ensemble stabilité politique et bonheur individuel.
Merci beaucoup, Mitya Rioubon, de nous parler de ce faux dilemme entre bonheur et stabilité. C'est toujours rassurant de t'entendre parler.
Ça me fait plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine, puis on va parler d'allégeance. Ça aussi, c'est un sujet intéressant, surtout en ces temps... post-pandémique, fin pandémie, là, de parler de l'allégeance à un système politique. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Mitya.
Merci, Amélie. À la semaine prochaine.
À l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause et on discute de l'approche finlandaise. Et oui, on parle avec la directrice de l'école primaire au cœur d'Ottawa, Marie-Pierre Bourdon. Restez à l'écoute. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. On parle du bonheur aujourd'hui à l'émission. Et Mélodie nous a appris, là, au début de l'émission, que les Finlandais, apparemment, seraient les plus heureux sur Terre. Et ça la donne bien parce qu'on parle de l'approche finlandaise dans le milieu de l'éducation avec Marie-Pierre Bourdon. Bonjour, Marie-Pierre.
Bonjour, Amélie.
Alors toi, tu es directrice de l'école primaire au cœur d'Ottawa. On l'aura compris, l'école se situe au cœur d'Ottawa.
Et
vous travaillez avec l'approche finlandaise. C'est quoi l'approche finlandaise?
Ben, écoute, en quelques mots, c'est vraiment une autre façon d'enseigner. On utilise beaucoup l'espace extérieur. Alors, on fait énormément d'apprentissage extérieur. Et notre journée est entrecoupée d'activités physiques. Alors, les élèves ont des périodes d'éducation physique comme dans toutes les écoles, mais chaque bloc d'enseignement est toujours entrecoupé par une activité physique. Ça peut être du yoga, ça peut être des exercices un petit peu plus intenses, mais c'est pour permettre vraiment d'entrecouper les périodes d'apprentissage pour que les enfants soient vraiment à leur meilleur pour être en apprentissage par la suite. Dans notre école, on n'a pas juste l'approche finlandaise, on a aussi le bac international. Donc, tout ça s'entrecoupe aussi, ce qui fait que ça rend les choses très, très intéressantes.
C'est quoi le souhait par rapport à l'apprentissage des élèves avec ces offres-là qu'ont l'école au cœur d'Ottawa?
Ben, les élèves sont beaucoup plus ouverts sur leur communauté, sont beaucoup plus ouverts sur la nature qui les entoure. C'est des enfants qui sont toujours, qui ont toujours soif de vouloir en apprendre plus. On est une école qui est certifiée éco-école aussi, donc tout ce qu'on fait par rapport à l'écologie, l'appartenance à l'environnement, le développement durable. On fait aussi la promotion d'une saine alimentation. Alors oui, toutes les écoles le font, mais nous, on met encore beaucoup plus d'emphase sur ça aussi. On est aussi une école sans devoir. Puis la raison pour ça, c'est vraiment parce qu'on veut favoriser la croissance personnelle des élèves, puis on veut créer des occasions d'apprentissage qui se font dans le cadre d'une vie familiale. Alors, on veut que les enfants aient la chance de jouer à des jeux de société, faire de la lecture en famille. Puis on veut vraiment que le bonheur soit au centre de la vie scolaire de l'enfant. Évidemment, tout le monde veut que les enfants se sentent en sécurité, soient dans un milieu de bienveillance. Mais on cultive ça vraiment à l'école là, à travers les valeurs de bienveillance, du respect d'autrui puis d'équité qu'on a à l'école.
Tu as mentionné un peu que vous aviez le bac international. Je suis certaine qu'il y en a d'autres comme moi qui étaient peut-être surpris d'entendre ça. On est habitué de connaître ça dans des écoles secondaires, mais comment est-ce que le bac international au primaire est avantageux?
Ben, on développe chez les enfants toutes les qualités du profil de l'apprenant de l'IB. Alors, l'IB, c'est l'organisme du bac international. Il y a 10 qualités qu'on développe chez les enfants, puis tout notre enseignement se fait au de ces 10 qualités-là. Je peux t'en nommer quelques-unes. On veut que une qualité informée, réfléchie, communicatif, ouvert d'esprit. Alors, notre enseignement se fait basé sur ces qualités-là qu'on veut développer chez les enfants et on le fait dès la rentrée à la maternelle. Là. Les enfants sont en mesure de nous dire, là, quand on fait ça, ben je développe la qualité d'un apprenant informé. Quand je fais cette activité-là, je développe mon altruisme. Alors, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre quotidien à l'école.
Et évidemment, il y a beaucoup d'importance sur le bonheur des élèves.
Tout à fait, oui, oui. Puis même entre les élèves, ils vont être capables de... Parce que c'est quelque chose qu'on véhicule dans notre façon de faire. On va jouer dehors aux récréations, puis on n'a pas de rang, on n'a pas de cloche. Alors vraiment, on va favoriser l'autorégulation chez les élèves, mais en plus de ça, quand on va à l'extérieur, on fait pas juste s'asseoir dans un parc puis on fait une leçon. On est à la découverte de la nature autour de nous. Notre école est située tout près des berges de la rivière Rideau. Il y a souvent au printemps des tortues qui sont en train de pondre. Alors, on regarde ça, on regarde toutes les sciences, on va les faire avec la nature. Chez les plus petits, on va regarder, par exemple, quand les arbres arbre commence à faire des bourgeons au printemps. On adopte un arbre à chaque année, puis on apprend à vivre avec cet arbre-là, les cycles de l'arbre. C'est vraiment comme... Moi, je trouve que c'est comme retrouver notre bonheur d'être à l'extérieur puis de découvrir et d'être émerveillé par tout ce qui se passe autour de nous. Mais on fait plein de leçons à l'extérieur aussi. On va faire des mathématiques, mais par exemple, on va prendre une marche dans le quartier puis on va travailler les formes géométriques en marchant dans le quartier. On va aller faire des mathématiques au marché d'alimentation qui est tout près de l'école. Alors, on est beaucoup à l'extérieur et on se sert de l'extérieur pour que les enfants soient bien. On est au soleil, on est à l'extérieur, on prend de l'air frais, on marche, on fait de l'exercice. Alors, c'est vraiment... ça fait vraiment en sorte que les enfants sont bien.
Oui, et puis vous êtes vraiment en train de former les citoyens de demain.
Tout à fait.
Et là, ça, toutes ces belles choses-là, ça se passe dans un édifice temporaire parce que c'est quand même une nouvelle école. Vous allez avoir un nouvel édifice qui va vous permettre d'en faire encore plus?
Oui, on va entrer en septembre 2021.
Oh, on te perd un petit peu, Marie-Pierre.
Ah, est-ce que c'est mieux maintenant?
Oui, là, c'est mieux.
OK. Alors oui, on est une très jeune école. On va faire notre cinquième rentrée scolaire en septembre 21. Alors, on est présentement dans un immeuble temporaire au cœur d'Ottawa. On est dans le secteur ce qu'on appelle Old Ottawa East, qui est le vieil Ottawa Est, là. Et on va déménager dans l'édifice des Châtelets, qui est tout près de l'Université Saint-Paul. On est vraiment dans le même quartier, là, mais on est tout près de la rivière, tout près du canal, près de toutes sortes de parcs qui sont autour de nous. Alors vraiment, on va pouvoir maximiser notre enseignement puis notre philosophie là, dans le nouveau quartier. Bien, c'est le même quartier, là, on s'en va juste un petit peu plus loin, mais dans notre édifice à nous, l'édifice des Châtelets, c'est aussi un édifice patrimonial. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage là, qui va se faire de ce côté-là aussi avec les élèves.
Il y a aussi un espèce de concept intergénérationnel, si j'ai bien compris.
Oui, ben c'est ça. Alors, l'édifice est quand même un très grand édifice. Il y a deux étages qui, dans les plans présentement, il devrait y avoir des logés pour personnes âgées. Alors, tout ce qu'on fait au niveau intergénérationnel va être absolument superbe. Ça va être des locataires de l'immeuble. Là. Alors, on va pouvoir créer plein de liens avec ces personnes-là pour faire vivre des belles choses aux élèves.
Est-ce que tu crois qu'il y a des difficultés avec toutes ces belles choses-là? Ça vient probablement avec des choses plus compliquées?
C'est pas compliqué, c'est juste de faire différemment. C'est certain que on est la seule école du Conseil catholique de notre conseil du CSECE qui a cette approche-là. On est la seule école élémentaire de notre conseil qui est une école au bac international aussi. Mais il y en a d'autres écoles au niveau du bac international dans d'autres conseils scolaires partout en province et au Canada. Mm-hmm. Il faut juste faire les choses différemment. Alors, quand on parle du bac international, faut planifier différemment parce qu'on veut planifier pour être à l'extérieur. Puis nous, on va à l'extérieur, beau temps, mauvais temps, même s'il pleut, on est à l'extérieur. Le seul temps vraiment qu'on va pas dehors, c'est quand il fait moins 40, là. Mais autrement, on est dehors tout le temps, quand il fait chaud, quand il pleut. Même les élèves dans la cour d'école, là, il pleut, ils sont dehors. Ils vont jouer dans les flaques d'eau, dans les flaques de boue. C'est vraiment le bonheur à sa base, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus fun que sauter dans une flaque d'eau puis jouer dans de la boue, là. Vraiment, c'est vraiment... Mais ça amène juste des choses où est-ce qu'il faut qu'on pense à faire des choses de façon différente. Alors, je vois pas ça comme des difficultés. Mm-hmm. C'est vraiment, on le fait de façon différente. Et avec toute la transformation de l'expérience d'apprentissage au 21e siècle, qui est un gros dossier partout dans nos écoles, ça cadre très bien. Ce qu'on fait, nous autres, ça cadre très, très bien avec ça. Puis, c'est facile de faire vivre tout ça dans notre école.
Oui, parce que on dit souvent que l'éducation, c'est ce qui a le moins évolué dans les dernières 100 ans. Donc, c'est beau de voir cette évolution-là qui est pleinement méritée. Là, ça faisait à peu près temps qu'on avait besoin d'avoir des nouvelles manières d'éduquer. Est-ce que la communauté, les familles, les jeunes, c'est quoi leur réaction? Est-ce qu'ils embrassent ça aussi?
Oui, tout à fait. On a une communauté vraiment... je vais dire tissé serré, là, c'est vraiment, on est en étant une petite école d'avance, alors On a 150 élèves en septembre 2021. Alors déjà là, une petite école, ça fait que la communauté est très, très proche. Mais on a des parents qui sont très, très impliqués, tant au niveau du conseil d'école, tant pour aider si, par exemple, pour faire, on fait pousser des semis au printemps dans les classes. On a des parents qui vont nous aider, qui vont les partir, les semis, parce qu'on en part quelques-uns en salle de classe, mais on veut avoir plus. On a vraiment une implication de parents qui est absolument extraordinaire. Puis il faut que ça soit comme ça parce qu'au bac international, on parle de communauté. On parle de communauté, on parle au niveau municipal, au niveau provincial, puis au niveau mondial aussi. Alors, toute cette communauté-là, on en a besoin pour être capable de faire notre enseignement au bac international aussi. Mais aussi, il faut que les parents croient dans notre approche finlandaise aussi parce que quand on est dehors puis il pleut toute l'après-midi, ben on est dehors et il pleut toute l'après-midi, on fait quand même ce qu'on a à faire. Alors, il faut que les parents croient à ça aussi. On fait, comme je te disais, c'est pas juste de prendre des marches, là, l'approche finlandaise puis être à l'extérieur, c'est vraiment... de travailler. On travaille beaucoup les sciences, l'étude sociale, mais on fait beaucoup de français, de mathématiques aussi. Mais on sert de la nature aussi pour être capable de faire notre enseignement.
Ce que je trouve super beau avec ça, c'est que ce genre d'école-là, ben en fait, les écoles en général, c'est des micro-sociétés. Donc, ce que vous réussissez à faire avec l'école au cœur d'Ottawa, c'est un peu nous prouver que notre société, on est capable de faire ça avec elle aussi.
Oui, puis une école fonctionne pas sans ses parents, sans sa communauté. On crée aussi des liens avec des partenaires dans notre quartier parce que il y a des choses qu'on pourrait pas faire sans les partenaires.
Oui.
Alors ça, c'est important. Puis il faut que les enfants comprennent aussi que on peut pas faire tout seul. Puis il faut que on ait cherché les gens qui peuvent nous aider autour de nous. Alors ça peut être aussi simple que l'autre côté de la rue, il y a un marché d'alimentation. On veut faire une activité, puis on a besoin d'aller faire des achats. Ben qui on contacte, comment on s'y prend. Alors toutes les démarches. Puis on n'est pas juste une école, on fait partie intégrale du quartier.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Bourdon, d'être venue nous jaser de cette belle école au cœur d'Ottawa à l'Utopie d'Amélie.
Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de l'invitation.
Marie-Pierre Bourdon, directrice de l'école primaire au cœur d'Ottawa, une école assez unique au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'est vraiment un pensez-y bien quand on apprend ces belles choses-là qui se passent dans la région. Il faut continuer à essayer de pousser des initiatives comme ça, changer les choses. C'est important, même quand on est habitué de faire les mêmes choses. Là, ben souvent, il faudrait se demander pourquoi on fait ça comme ça. Hein? Alors, c'était vraiment un pensez-y bien. Moi, je vais y réfléchir certainement, peut-être pour mes enfants au futur. Il faudrait pas que mon chum m'écoute. Bon, on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie et on discute avec Yannick Marcil, économiste, et on se demande est-ce que l'argent fait réellement le bonheur à l'Utopie d'Amélie. On parle du bonheur aujourd'hui à l'Utopie d'Amélie. Ça, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça devrait tout nous tenir à cœur, le bonheur. Mais autre chose auquel notre vie est toujours consumée par cette chose-là, je parle bien de l'argent. Et là, ben, on a Yannick Marcil, économiste spécialisé dans le domaine des transformations industrielles et technologiques. C'est pas que le titre. Merci Yannick d'être avec nous.
Ça me fait un grand plaisir, c'est un honneur.
Alors, on se demandait, là, pour commencer ça directement, est-ce que l'argent, là, ça fait réellement le bonheur?
Oui, quand on n'en a pas.
Oui?
Parce que si on est au bas de l'échelle, si on a peu d'argent, en avoir un peu plus, c'est clair que ça augmente notre bonheur. On peut prendre soin de nos proches, de nos enfants, on peut mieux se nourrir, ainsi de suite. Donc, faut pas diaboliser l'argent, hein, parce que l'argent, c'est quoi? C'est le résultat du travail. Et si on est capable de travailler, si on a le loisir de le faire, ben on peut s'occuper de notre famille. C'est tout simple que ça.
Mais ça peut pas devenir dangereux d'être obsédé par l'argent?
Ben là, ça dépasse un petit peu mes compétences. Hein. Je suis économiste, je suis pas philosophe, mais il y a de mes confrères qui ont déjà étudié la question et qui disent que en haut de 75 000 $ en gros là, de gains par année, on n'est pas plus heureux. Fait que, tu sais, okay. Il y a comme une base.
Il y a un plateau.
Hein?
Ça, il y a un moment donné où ça plafonne, là, où
oui,
on n'a pas
ça.
Besoin et, de plus que ça.
Mais moi, je pense qu'il faut regarder toujours vers le bas. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir un toit sur sa tête, avoir de bons aliments, être assuré que la semaine prochaine, on ne sera pas débranché de l'hydro. C'est plus ça qui est ma préoccupation. À un moment donné, que les gens fassent de l'argent ou n'en fassent pas, ça me préoccupe peu. Mais que tout le monde ait un minimum, ça, c'est surtout dans une société riche comme la nôtre, c'est vraiment important, là.
Pourquoi, comme dans une société riche comme la nôtre, comme tu le dis si bien, il y a encore de la pauvreté?
Oh mon Dieu, vaste question.
Oui, je pose les grandes questions.
À laquelle je ne peux pas répondre facilement, mais c'est la concurrence entre les métiers, c'est les inégalités qui persistent parce que le système les perpétue et ainsi de suite. C'est vraiment pas simple répondre à cette question-là, mais c'est une question importante. Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est vers où allons-nous? Comment pouvons-nous, comme société très riche, s'assurer que, je sais pas, moi, c'est complètement aberrant de savoir qu'il y a des enfants qui mangent pas à leur faim là, dans notre pays. Là.
Est-ce qu'il y a manière de créer un système, là, je sais pas si mes questions sont trop grosse, mais est-ce que avec cette économie-là, si on se disait tous ceux qui font 75 000 par année et plus, ben ce qui dépasse, ben on le redonne, mais directement.
Ben je te dirais, il y a deux réponses à ça. Il y en a une qui est collective, c'est-à-dire c'est l'État qu'on a construit, l'État social au Canada, à peu près dans toutes les provinces, à partir des années 60, où on s'est dit, ben là, on va ponctionner, on va récolter des impôts, puis on va faire des programmes publics. Ça, c'est une première chose qui a été mise très à mal dans les dernières années. Donc, il faudrait peut-être rétablir un peu plus. D'autre part, individuellement, on peut le faire aussi. Tu sais, c'est pas grand-chose. C'est aider ses voisins, aider sa famille. C'est pas nécessairement monétaire, c'est juste être là pour les autres. On a un peu oublié, j'ai l'impression, ce lien social-là, parce qu'on est tous contraints dans nos vies personnelles à courir après les devoirs, les enfants, le dodo, le boulot le lendemain matin, ainsi de suite. Peut-être prendre un petit pas de recul pour aider. Là. Puis là, je dis ça comme citoyen, là, pas comme économiste. Là. C'est juste... J'ai l'impression qu'on court tous après notre vie et c'est une grande tristesse, alors qu'on a toutes les possibilités pour faire autrement.
Parce qu'il faut quand même faire attention, même si l'argent, c'est important, de ne pas juste passer notre vie à essayer de la gagner puis de ne pas en profiter, finalement.
Oui, parce que l'argent, c'est super important. L'argent, c'est ce qui permet que mon voisin qui est psy gagne sa vie. C'est ce que moi-même et vous-même et tout le monde qui nous écoute nous permettent de gagner notre vie, d'acheter des tomates et ainsi de suite. c'est pas le mal en soi, là. C'est quand ça devient une espèce d'obsession, c'est là où ça devient un peu inutile, en fait, là.
Oui, parce que si on l'accumule puis on fait juste l'empiler, c'est vrai qu'elle ne nous sert pas à grand-chose, au fond.
Voilà.
Est-ce que la pandémie, c'est quoi l'impact qu'a eu cette maudite pandémie-là, si je peux me permettre, sur notre société puis notre économie? Et comment on va en revenir de ça?
Moi, j'ai l'impression qu'on va devoir beaucoup analyser cette situation-là parce que là, on n'a pas de recul, là, présentement. On est encore un petit peu dedans.
Oui.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup... En tout cas, je regarde mes réseaux sociaux et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, attends un peu, là, qu'est-ce que je faisais avant, là? Puis là, j'ai été obligé d'arrêter de tout faire, puis ça n'a pas eu tellement d'impact sur ma vie. Tu sais, genre, oui, il y a des gens qui en ont souffert, là. Je ne veux pas le nier, là, mais il y a beaucoup de gens qui... Bon, ça n'a pas changé tant de choses que ça, puis peut-être qu'on va se rendre compte que gagner des sous pour gagner des sous, ben c'est pas si important que ça, puis que passer la journée à la maison, même si c'est souvent compliqué quand tu as des enfants, mettons, ben c'est précieux. Tu sais?
Mm-hmm. C'est l'idée. Oui.
Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement, là. Je suis là, encore une fois, là, c'est pas. J'ai aucune expertise là-dedans, là. C'est, mais j'ai l'impression que on va réfléchir collectivement beaucoup à cette période-là.
Puis au niveau des transformations industrielles et technologiques, au niveau de l'économie, qu'est-ce que ça apporte, ça? C'est quand même récent, là. On dirait que ça a tellement évolué rapidement, notre société, que là. Notre propre technologie nous dépasse un peu, mais c'est quoi l'impact que ça a sur notre économie?
Je te dirais que c'est... la plupart de mes collègues économistes et moi ont été assez surpris de voir combien il y a eu peu d'impact. Il y en a eu, en fait. Évidemment, là, par exemple, on sait, là, il y a des restaurants qui ont fermé, des hôtels qui ont fermé, tout ça. Mais c'est relativement limité. Puis on se dit, ben voyons donc, on est plus solide qu'on le pensait. Après presque un an et demi, vraiment d'arrêt presque complet de l'économie, coudonc, c'est pas si mal cette économie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bâti un système avec, ben, on nous excluant tout le monde, là, parce que c'est historique depuis 250 ans, on a construit un système qui est relativement solide et puis qui peut passer à travers des crises assez importantes. Puis se dire, ben, OK, on va prendre une pause, puis on va repartir. Ce qui est assez étonnant, en fait.
Oui, oui, c'est impressionnant, puis c'est, ça me surprend aussi d'entendre ça. Mais agréablement surprise, je suis bien contente pour notre économie. Est-ce que il va y avoir une limite à ça? Est-ce que c'est certain? Est-ce que selon ton expertise, on a encore de la place pour d'autres crises? Parce que j'ai l'impression qu'on risque d'en avoir d'autres dans les prochaines années.
Ah, oh, mon Dieu, il ne faut jamais demander de prévoir à un économiste de prévoir l'avenir. Mais, écoute, oui, tu as raison, c'est clair qu'on est face à plein de défis, de crises à potentiel, ainsi de suite. Ce que ça nous dit, moi, j'aime voir le côté positif. C'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes qui se sont tenus par la main pour se dire, hey, on va passer à travers, on est capable. Tu sais, autant des employeurs que des employés, autant des clients que des commerçants qui sont dit, OK, c'est un mauvais moment à passer, on est capable de le faire. Puis je pense que ça, c'est assez intéressant, j'allais dire rassurant, c'est peut-être pas le cas, là, mais parce qu'on on le voit avec les feux de forêt puis tout ce qu'on peut voir de catastrophes naturelles, oui. C'est vraiment pas joli ce qui nous pointe au bout du nez, mais je me dis, hey, l'humain, il est peut-être pas aussi crétin qu'on le pense, puis il est capable de se prendre la main dans la main pour passer à travers ce genre de grande crise-là. Tu sais.
Est-ce que...
Oui. Mais je peux pas le prévoir. Là,
non. Non, on n'écrira pas ça. On n'écrira pas ça nulle part. Mais finalement,
Mais on le souhaite, par contre.
Oui, on le souhaite vraiment d'être capable de passer à travers tout ça, mais des fois, on est incertain. Est-ce que à travers une crise climatique comme on la vit, est-ce que l'argent... va continuer à gérer, à régner sur notre société? Est-ce qu'un jour, est-ce que ça serait possible que l'argent disparaisse, en fait, puis qu'on change de système complètement?
Bon, oui, j'imagine, mais en même temps, c'est pas si mal. Tu sais, l'argent, c'est un moyen de communication. C'est à peu près la même chose que toi et moi qui se parlons présentement. L'argent, ça sert juste à dire, ben moi, j'ai des tomates à vendre, toi, tu vas en acheter. Fait que j'utilise une bébelle qui s'appelle l'argent. Comme toi et moi, on se parle présentement pour communiquer des idées. Fait que, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais quand ça n'est qu'une, comme on le disait tantôt, là, une forme de spéculation. Mm-hmm. Mais autrement, c'est un outil très pratique, comme l'est la parole. Tu sais, c'est pas mauvais en soi. Est-ce que ça va se transformer? Peut-être. Je le sais, sans aucun doute, en fait. Ça se transforme depuis des millénaires.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est pas mauvais. Faut pas voir l'argent comme quelque chose de mauvais en soi. C'est mauvais quand on, comme le disent les Anglais, c'est greedy. Là, tu sais, tu veux avoir de l'argent.
Donc, le problème, c'est pas du tout l'argent, c'est les individus qui...
Ben oui, parce que ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être de l'or, ça pourrait être des cailloux, ça pourrait être des arbres. C'est quand tu veux acquérir une puissance, un pouvoir sur les autres que ça devient monnaie. Mauvais. L'argent en soi, donc la monnaie, là, c'est ce qu'on a dans nos comptes de banque. C'est pas mauvais en soi, là. C'est juste un outil. Mais quand ça devient un outil qui est au service de la violence, de la puissance, ben oui, c'est mauvais. Mais encore une fois, ça pourrait être des arbres, ça pourrait être des cailloux. Là,
alors, comme n'importe quoi, en bref, quand on en a trop, ça devient superflu, non nécessaire et souvent dangereux.
Ben, pour revenir à ta question de départ, est-ce que ça rend heureux? Hein?
Mm-hmm.
Ben, oui, ça peut rendre heureux parce qu'on en a besoin. On a besoin de manger, d'avoir un toit. Mais quand c'est devenu un outil de pouvoir, là, c'est dangereux.
Alors, en bref, l'argent, comme n'importe quoi d'autre, peut certainement faire le bonheur, alors.
Oui, je pense que oui, puis il faut s'en méfier comme de tout.
Oui, je crois que peu importe ce qu'on trouve qui nous rend heureux, eh bien, c'est la bonne chose.
Absolument.
Merci.
Je te le souhaite.
Ah, ben.
Cette source de bonheur.
Ah, ben, merci beaucoup, Yannick Marcille, l'économiste, d'être venu nous jaser à l'Utopie d'Amélie.
Ça me fait plaisir.
Bon, on apprend plein de choses à l'Utopie d'Amélie aujourd'hui. L'argent peut bel et bien faire le bonheur. Faut pas être trop pessimiste quand ça vient à ça, mais en quantité, faut quand même... c'est pas n'importe quelle quantité d'argent. Le plus d'argent qu'on a va pas nécessairement nous rendre plus heureux. Ça, on a conclu ça. On a aussi appris que les Finlandais étaient beaucoup plus heureux que les autres sur la Terre. On pourrait apprendre beaucoup de choses de nos voisins de pays. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont passé à l'émission. On a eu notre cher philosophe, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa, Mitya Rioubond, pour parler du faux dilemme entre le bonheur et la stabilité. On a eu Marie-Pierre Bourdon pour parler de l'approche finlandaise à l'école au cœur d'Ottawa. Et finalement, Yannick Marcille, l'argent et le bonheur. Un autre faux dilemme au fond. Mélodie Lorquet et Philippe Bourdeau, merci d'avoir été avec moi pour travailler sur cette merveilleuse émission. Moi, c'était Amélie Trottier et on se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie.